100% Aiglon, Thomas de Bono.
Il est 18h06, 100% Aiglon, c'est parti avec Maxime Bacquier qui est là. Salut Max.
Salut Thomas, bonsoir à tous.
Jean-Michel, notre supporter également là. Salut Jean-Michel.
Bonsoir à tous.
Et puis attention, il est de retour. Mon Patrice Albert Conti, qu'est-ce qui nous a manqué celui-ci?
Qu'est-ce que tu m'as manqué toi aussi Thomas? Qu'est-ce que vous m'avez manqué chers auditeurs?
Ça fait du bien de te retrouver.
Enfin une éclaircie dans cette acte rouge et noir morose.
Très content d'être là, de retour parmi vous.
Ah, t'as des belles couleurs, hein?
Écoute.
T'es allé où en vacances à Dunkerque?
Je peux pas le dire, c'est top secret. Mais j'étais bien, j'étais très bien.
Ah ben ça se voit. 100% Aiglon, le débrief, c'est parti. Et on va commencer avec cette nouvelle désillusion. Max, je regardais là les stats de l'OGC Nice, avant-dernier hein, depuis le début 2024, avant-dernier du classement. 5 points pris seulement sur 24 possibles. Désillusion ?
Eh ben oui, désillusion évidemment, parce que quand tu parles du match le plus important de ta saison avant de recevoir Montpellier, Youssouf Farioli qui estimait que c'était le match où il fallait réagir, on était d'ailleurs tous d'accord, on en avait parlé avec Patrice, voilà, t'es à la maison, t'es contre une équipe qui allait pas mieux que le gym, qui était barragiste, qui avait gagné qu'un seul match en 2024. Et encore une fois, tu t'écroules. Alors, il y a ces faits de jeu, il y a, oui, le CSC de le contre son contre Todibo, il y a ce pénalty malheureux provoqué par Gaëtan Laborde, mais semaine après semaine, on a l'impression de répéter la même chose. Nice domine, Nice a la possession, Nice a les expected goals, mais ce qui compte, les buts, les points, ça veut pas tourner dans le bon sens. Donc là, malheureusement, j'ai peur que cette défaite marque vraiment le tournant vers le mauvais côté, quoi, et que ça marque une vraie rupture là, ça y est, dans la saison du gym, en tout cas en Ligue 1.
Est-ce qu'on n'a pas un peu l'impression de se battre contre un moulin à vent, c'est-à-dire que quoi qu'on dise, quelles que soient les observations qui sont faites par des amateurs comme par des professionnels beaucoup plus averti comme Pat, rien ne change, c'est toujours la même chose, on retrouve ce système de jeu, on retrouve cet état d'esprit, on retrouve ces erreurs, ce manque de finesse tactique et technique à la fin, Pat.
Ouais, beaucoup, oui, complètement. Ce manque surtout d'idées offensives, ce manque de d'efficacité offensive. Et c'est vrai que j'ai l'impression de répéter régulièrement la même chose. Mais encore une fois, cette OGC Nice est une équipe qui marque trop peu de buts pour pouvoir exister et rester au haut de tableau. Et la finalité, on parle des expected goals. Pour moi, l'objectif, c'est pas d'avoir une occasion qui est importante. Pour moi, l'objectif, c'est de marquer des buts. Et quand il y a une équipe qui a autant d'occasions et qui marque pas assez de buts, c'est qu'il y a un vrai problème offensif. Et moi, ce qui me fait le plus, ce que je vois régulièrement le plus, c'est qu'on, offensivement, on progresse pas, en fait. On n'arrive pas à progresser, à avoir un match référence ou deux qui sont capables de relancer nos attaquants. Et les occasions, on les a. La finesse technique, elle est pas là. La justesse technique, elle est pas là. Et l'efficacité offensive, malheureusement, il y en a pas.
Et donc, pourtant, il termine avec 4 attaquants le match. Pour une fois, il a fait rentrer Francesco Farioli des armes pour essayer d'aller. Mais ça veut dire qu'il y a quelque chose qui coince. C'est pas forcément le nombre d'attaquants que tu mets sur la pelouse qui change les choses.
On en a parlé. Quand tu fais rentrer 4 attaquants, ton animation de jeu doit changer. Pour moi. Attention, ça n'engage que moi. Et on a vu encore une fois, on garde les mêmes standards dans le jeu, dans le circuit de passe. On reste sur sur aspiration de l'équipe adverse pour essayer de trouver nos attaquants. Alors quand tu fais rentrer 4 attaquants, change de jeu, allonge. Va chercher tes attaquants, va mettre la pression dans le camp adverse. C'est ce que moi je pense efficace quand il y a autant d'attaquants sur le terrain. Maintenant, je suis pas entraîneur, j'ai mon œil de consultant, mais voilà, je trouve qu'aujourd'hui Nice offensivement ne progresse plus.
Jean-Michel, toi qui es supporter assidu hein, de l'OGC Nice, les supporters te connaissent bien, hein, t'as été souvent, voire tout le temps dans les tribunes. Comment tu vis justement c'est un petit peu ces montagnes russes, parce qu'on a connu un début de saison tout feu tout flamme, on était deuxième, ça allait super bien, limite on regardait le PSG si on pouvait les rattraper, et là on commence à regarder derrière nous et même au milieu du tableau, hein.
Si on peut revenir sur ce que disait Patrice, c'est-à-dire que même en décembre, on n'était pas si fort que ça offensivement à marquer des buts. Le problème qu'on a, et pour imager les 4 attaquants qui sont rentrés, je me rappelle le centre de Louchet, qui centre au cordeau, au 6 mètres où il n'y a personne, et pourtant on a 4 joueurs offensifs qui devaient être là au milieu pour aller marquer ce but-là. Après, malheureusement, défensivement, on n'est plus aussi fort que ce qu'on était jusqu'à décembre. Et voilà, on a rien offensivement qui change depuis septembre.
Et selon toi, c'est la défaite des joueurs ou la défaite de Farioli ? Ou la défaite du groupe ?
Moi, je pense que c'est la défaite de Nice. parce qu'on ne peut pas remettre tout en question. Il y a aussi les joueurs qui devraient changer les choses. À un moment donné, voilà, Farioli, comme tout entraîneur, va peut-être mourir avec ses idées. Mais le problème, c'est qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui change quelque chose aujourd'hui.
Moi, j'étais assez rassuré, presque optimiste après la défaite à Toulouse, où j'avais eu l'impression qu'il y avait eu justement ces changements. Il y a eu un pas qui avait été fait d'un côté et de l'autre, le coach vers son équipe, peut-être l'équipe vers le coach, changement de système dans les discours, dans le jeu, avec cette défense à trois. Et là, j'ai l'impression qu'on est revenu à ces standards, ce jeu très stéréotypé, presque scolaire, trop figé. Et puis, il y a tout ce dont on va parler encore, ce qu'il y a autour de ce match. On a l'impression presque d'une fracture aujourd'hui entre les supporters et l'équipe. On voit Lotomba qui sort furieux du match, quelques semaines après Youssouf qui en avait jeté son maillot à Lyon. Donc, ça ressemble à une vraie grosse mauvaise passe, là, et presque peut-être à une fracture.
Est-ce qu'on peut parler de crise déjà, Jean-Michel, selon toi ?
Non, mais moi, je voudrais revenir sur une chose, c'est que on a l'impression toutes les années que ça se répète. On arrive à chaque fois, janvier, février, mars, où on s'écroule à chaque fois. Merci. Et n'importe qui est sur le banc.
Là, mais c'est ce que je dis depuis le début de la saison. Je dis attention, en hiver, l'OGC Nice, chaque année, on chute. Mais c'est tous les ans pareil. J'en parlais avec Charlie, qui est un supporter de plus de 60 ans, hein, qui va supporter les Rouges et Noirs. Il me dit, mais tu as raison, chaque année, c'est pareil. On sait que janvier, février, décembre, ben voilà, on n'est pas bien, on chute. Mais alors là, quelle chute.
Mais ça, c'est irrationnel de mettre ça sur le compte d'une saison. Il faut,
non, mais après,
il faut trouver des explications à ça. Alors, est-ce que c'est une culture ?
On sait que dans l'année, au football, il y a toujours des périodes où on est moins bien que d'autres. Mais le problème, c'est que quand on n'est pas bien, il faut savoir changer. Là, la tactique, oui, tu dis que ça a changé à Toulouse. On a vu quelques trucs, on a joué à trois derrière. Mais le problème, c'est qu'on est revenu à la même chose contre Montpellier. Moi, je pensais qu'offensivement, on avait réussi quelque chose en Coupe de France à Montpellier en marquant 4 buts. Et au final, on en revient à pas marquer de buts, quoi.
Et il y a aussi, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que oui, il a changé, effectivement, Max, il a bien changé. Il est passé à 3 défenseurs. Ça change un petit peu l'animation. Il n'a pas changé les hommes. C'est-à-dire que Laborde, il est toujours là. Thuram, il est toujours là. Mofi, il est toujours là. Et il garde toujours ses 3 attaquants, Pat. Changeons-les un peu, ces gars-là.
Moi, je pense. Alors. Changer tactiquement avec ce qui s'est passé depuis le début de la saison, tout chamboulé, tu peux le faire. T'as des joueurs qui ont de la qualité, t'as des joueurs qui ont de l'expérience pour pouvoir s'adapter. Moi ce que j'exigerais, et je trouve c'est là où on est un peu en déficit, c'est dans le degré d'exigence. Tu vois, tu regardes les moi je regarde beaucoup de matchs à la télé et je regarde, c'est vrai, je suis enthousiasmé par certaines équipes européennes où tu vois des joueurs de très très haut niveau qui ont un degré d'exigence personnelle qui est vraiment au-dessus de plein d'autres joueurs. C'est pour ça d'ailleurs que c'est des top players, mais à Nice, j'ai l'impression que de temps en temps on se limite à arriver à avoir nos occasions en se disant voilà, c'est bon, on a fait le décalage, on a réussi à mettre le centre qu'il fallait, ça va pas au fond. Mais moi je pense que c'est personnel. Tu disais c'est la défaite de l'OGC Nice, la défaite de l'entraîneur. Je pense c'est la défaite, si tu veux, de l'animation dans le jeu, si tu veux. Quand tu es sur le terrain, tu ne peux pas te contenter, je pense, à un moment donné, d'être que comme ça offensivement. Et j'en parle parce que j'ai eu un petit poste offensif, donc je sais un petit peu de quoi je parle, mais quand je vois le déchet que nous avons face à la cage, ou dans le dernier geste, dans l'avant-dernier geste, dans la bonne passe dans la bonne zone, le bon contrôle au bon moment, c'est ce qui nous fait défaut. Et le football, nous, au niveau, aujourd'hui, il est fait de petits détails. Et ces petits détails-là, on les règle pas à Nice. On n'arrive pas à les régler. Et c'est pour ça que je trouve que notre attaque ne progresse pas.
C'est vrai qu'on m'a souvent dit dans mon job, c'est dans le détail qu'on voit la différence entre les bons et les très bons. On a été bons et on sera a priori pas très bon cette année. La question qu'on a en droit de se poser maintenant, Max, c'est où va s'arrêter cette chute, parce que on perd une place par journée, hein.
Oui, et puis quand t'es pas capable de battre à la maison le dernier du championnat, le 16e du championnat, Clermont, Montpellier, bah tu vas battre qui? Là, il y a une sacrée semaine qui s'ouvre. Alors la Coupe de France nous a réussi cette saison, pourquoi pas aller tenter et croire à un nouvel exploit au Parc, hein. On est la seule équipe à avoir battu Paris au Parc cette saison, on va en reparler. Mais derrière, t'as un déplacement à Bollard, on y sera, pas tout. Et ouais, nous on y est. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'on gagne, qu'on perde, on sera à Bollard. Peut-être pour presque une finale, une dernière finale, une dernière chance de s'accrocher à ce bon wagon, parce que c'est vrai que depuis quelques semaines, on perd une place par week-end. T'étais deuxième, 3, 4, 5, 6, et aujourd'hui, c'est Marseille qui te talonne.
On peut même plus vanner les Marseillais qui bossent avec nous.
Ah, ils restent derrière pour l'instant.
C'est un enfer.
Il faut en profiter. Et on sait jamais. C'est un peu comme dans la course à pied. Il y a le second souffle. Ça peut mettre du temps à arriver, mais tu peux finir par le trouver et tu peux finir par te relancer. Mais on sent pas, là, justement, un athlète rouge et noir en capacité là de trouver ce second souffle qui a l'air plutôt en train de s'asphyxier là, donc c'est ça qui nous inquiète. Mais t'as une dernière semaine avant la trêve là qui peut relancer tout ça, et c'est un peu la semaine où tu peux tout gagner et tout perdre à la fois. T'as la coupe et ce match à Lens qui peut définitivement quasiment t'enterrer dans cette course à l'Europe.
Semaine décisive. 100% Aiglon, le débrief, ça continue dans un instant. Les tops, les flops, et puis on aura nos supporters également qui vont nous rejoindre. Vous voulez vous aussi participer à l'émission, n'hésitez pas. C'est votre émission 100% Aiglon. Vous nous appelez 04 93 82 03 04.
Tous les matins, en semaine à 8h25, Adrien Mangano et les VIP de passage sur la Côte d'Azur sont sur France Bleu Azur et France 3 Côte d'Azur.
Salut, c'est Christophe Willem sur France Bleu.
Bonjour, c'est Zazie.
Adrien tend le micro France Bleu Azur à celles et ceux que vous aimez voir au cinéma, à la télé, sur les réseaux. L'actu média, musique, ciné, série, tous les matins à 8h25 et tout le temps sur francebleu.fr et l'application ici.
Du 13 mars au 7 avril, retrouvez le Printemps des Arts de Monte-Carlo avec France Musique. Pour cette 40e édition, le festival réunit plus de 500 artistes avec des grands noms comme Laurence Equilbet ou Henri de Marquette. Au programme, concerts et expériences musicales inédites. Rendez-vous à Monaco du 13 mars au 7 avril. Un partenariat France Musique à retrouver sur radiofrance.fr.
Enfin, point sur vos conditions de circulation sur France Bleu Azur. C'est extrêmement difficile hein, sur le boulevard Carnot dans les deux sens de circulation. Difficile également dans le sens montant hein, avenue Campon. On est bien évidemment à Cannes sur la pénétrante Grasse-Cannes. Là aussi, hein, vous allez rencontrer pas mal de monde dans les deux sens sur l'A8 en direction de Nice. Ça va commencer à bouchonner à partir de Villeneuve-Loubet jusqu'à la sortie, Nice-Centre. Nice sur la voie Matisse, ben, c'est dans en direction du centre justement que vous allez rencontrer des difficultés qui s'étalent sur pratiquement les trois quarts hein, puisque ça commence au Bosquet jusqu'à la sortie du tunnel Malraux. La pénétrante du Paillon direction la Pointe de Comte vous posera aussi quelques problèmes, et puis pour tout le bord de mer hein, entre Monaco, Beausoleil, Roquebrune, Cap Martin, là aussi pas mal de difficultés, c'est embouteillé, donc évitez vraiment le secteur, ou sinon si vous êtes dans les embouteillages, profitez-en pour écouter 100% Aiglon, qui continue.
100% Aiglon, 100% Aiglon sur France Bleu Azur.
100% Aiglon, le débrief, toujours avec Maxime Baquier, Patrice Albergantier, Jean-Michel, notre supporter, et puis autre supporter qui nous rejoint, c'est Alain de Carrosse. Salut Alain.
Bonsoir tout le monde.
Salut Alain.
Salut Alain.
Salut.
Ça va Alain?
On te demande pas comment ça va.
Calme-toi. Hein.
Alain, il est en colère. Et triste à la fois.
Ah.
Voilà. Bon, c'est vrai que depuis un bon moment, là, quand je vois les matchs qu'on joue au stade, je suis un peu en colère, voilà. Je comprends pas. On était deuxième, on faisait un beau parcours, et au fur et à mesure, on perd des points, on avait 12 points d'avance, et là, petit à petit, les points, ils s'en vont.
En colère contre qui, Alain? Alain, en colère contre qui? L'entraîneur, en colère contre le club, en colère contre les joueurs?
Non, je peux pas dire que je suis en colère contre l'entraîneur, contre les joueurs, non. De voir un peu comment on joue. Voilà, on joue contre des équipes qui sont... On va enlever le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain, c'est à part. Après, toutes les autres équipes, je peux pas dire qu'ils sont plus forts que nous. Quand je vois Montpellier, quand je vois Clermont-Ferrand, tout, c'est ça qui me met en colère. On a largement le potentiel pour pouvoir les battre, et on n'arrive pas à les battre. C'est ça qui me met en colère. Après, je suis triste. C'est mon équipe. Moi, je donne tout pour cette équipe. Et quand je les vois là, ça me fait de la peine. Après, quand j'entends tous les critiques et tout, il faut arrêter. C'est dans les bons et dans les mauvais moments qu'on les supporte. C'est pas de les casser et tout. Là, on va jouer un match de Coupe de France à Paris. On va jouer un match. Sur un match, tout peut arriver. Alors, restons soudés, restons tous ensemble. Ils peuvent le faire. Moi, je suis de 1000% derrière eux. Moi, je les vois presque tous les jours. Je sais qu'ils ont les moyens de le faire. Alors, arrêtons de les critiquer tous. Je sais, je comprends certains supporters, ils sont en colère et tout. Mais voilà, c'est pas en les cassant tout ça tous les jours, qu'on arrivera à quelque chose. Restons soudés et on verra bien à la fin du championnat. Voilà.
Eh bien, c'était le coup de gueule d'Alain. Merci Alain d'avoir
mesuré.
Été avec nous.
Ouais, Alain. Très bien.
Mais mesuré, ouais. C'est vrai que c'est
derrière son équipe, mais il a
un vrai supporter. C'est vrai qu'Alain, on retrouve là le vrai esprit du supporter. C'est, il est pas content, c'est vrai. Il est triste, c'est vrai. Mais il est toujours derrière son équipe. Il les lâche pas. Il continue à les voir.
Et il va au stade. C'est ça aussi le supporter niçois qui peut aussi parfois être un petit peu frustrant, c'est de voir que ce stade contre Montpellier dans un match crucial, on le disait, l'un des matchs les plus importants de la saison, il y avait 16-17 000, alors officiellement plus de 20 000, mais vu la pluie, il y avait à peine 16-17 000. Il y a aussi ces cœurs à reconquérir, et Alain disait, c'est surtout de voir cet OGC Nice jouer aussi mal, ou qui m'attriste entre des résultats et une identité de jeu. Jean-Michel, toi, si tu avais le choix, aujourd'hui, pour cet OGC Nice, tu choisirais quoi ?
Moi, c'est l'identité. Voilà, les résultats, on sait qu'ils sont fluctuants. Après, comme il dit Alain, c'est sûr, on va au stade tout le temps. Nous, ce qu'on veut, voilà, on supporte notre équipe. Après, on est là, on chante. Mais voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, le problème, c'est qu'on nous a, on nous a offert quelque chose au mois de janvier. On nous a dit, on va jouer l'Europe. Le problème, il est là. Depuis que la communication a été faite là-dessus, on ne gagne plus un match. On ne gagne plus rien. Voilà, moi c'est. Après, voilà, oui, on a une identité. Le problème, c'est que tu manques de solidarité. Je trouve qu'on manque depuis ces 6-7 derniers matchs. Est-ce que ça va avec les résultats ? Mais on manque de ça sur le terrain et en dehors aussi. Hein.
On sait une
équipe. Puisque quand tu tiens un stade comme ça, que même quand on était deuxième, tu le remplis une fois dans l'année. Voilà, c'est le souci qu'il y a aussi.
Ça a toujours été le cas, Jean-Michel.
Ah oui, non, mais je.
Tu t'étais au Ré déjà, j'imagine.
De toute façon, on remplit pas plus que le Ré. Hein.
Mais c'est ça, c'est l'histoire.
Il y a qu'avant les abonnés.
On remplit plus qu'au Ré en nombre de.
Non, mais je te parle en nombre d'abonnés. C'est le. Oui, c'est ce qu'il y avait au Ré. On était 13 000. C'est ce que t'as comme abonnés. Hein.
Ouais, non, mais c'est. En fait, l'engouement n'est pas supérieur avec les résultats. On sait que Nice a son cœur de supporters. Qui sont 13, 15 000 plus ceux qui se greffent autour et qui sont différents à chaque match. Et qu'il va être difficile de faire plus sans avoir cette Coupe d'Europe, sans vraiment faire rêver tous nos pitchouis qui sont en école de foot et qui sont les futurs supporters. Parce que c'est à eux aussi qu'il faut penser quand on fait ces émissions, parce qu'ils nous écoutent d'ailleurs, et je trouve que la réaction d'Alain était vachement saine pour ça, par rapport aux enfants qui peuvent écouter et qui disent voilà, ça c'est un vrai supporter. Il n'est pas vindicatif, il est en colère, il est triste, mais il y supporte. Pat, quand t'es joueur, c'est des supporters comme ça que t'as envie d'avoir.
Non, bien évidemment, tous les supporters de l'OGC Nice, c'est un supporter, c'est des fans, si tu veux, aguerris quand même, les supporters. Ils sont exigeants, les supporters niçois. Mais après, ils sont là, le gros du supporter niçois, il est là dans les bons et dans les mauvais moments. Et moi, j'ai vu des matchs de Ligue 2 où on jouait au Stade du Ré contre des Wascals et des machins, tout ça, et il y avait toujours ces 4-5 000 mecs qui étaient là à mouiller le maillot avec nous, parce que c'est des vrais supporters. Mais après, moi, je rejoins un petit peu ce que dit Alain. Alors, la tristesse est liée, la colère aussi, je peux les comprendre. Après, nous, personnellement, en tant que journaliste, consultant, si tu veux, on doit avoir un œil un petit peu différent. Moi, je critique pas l'équipe, je critique pas le club. Je dis que aujourd'hui, il nous manque certaines choses dans cette équipe pour être vraiment performant au plus haut niveau. Ce que met en place Francesco Farioli depuis le début de la saison, c'est inédit, c'est nouveau, c'est des jeunes entraîneurs qui ont des idées différentes. Mais tu peux pas capitaliser une saison. Pour avoir vu du football pendant j'ai 51 ans bientôt, j'en ai vu des matchs de foot. Je pense que tu peux pas capitaliser une saison de football que sur ton système défensif. Pour moi, c'est compliqué, c'est dur, parce que quand tu es défenseur et que tu défends tous les matchs et que tu cherches des clean sheets et que tu veux pas prendre de but, remettre le couvert tous les week-ends, c'est compliqué. Quand tes attaquants devant toi, ils ont des occasions et ils les mettent pas au fond. Donc quelque part, ça te frustre quand tu es sur le terrain.
C'est Boulka qui en a parlé dans une interview là récemment. Hein.
Si tu veux, c'est très frustrant. Après, là où je dis qu'on doit avoir un axe de progression énorme, c'est sur les exigences offensives. Et offensivement, il nous manque ce petit supplément d'âme, cette petite étincelle qui fait que ton occasion, elle va aller au fond. Et aujourd'hui, l'OGC Nice, malheureusement pour nous, on a beaucoup d'occasions. Alors si, pour Francesco Farioli, le plus important, c'est ses expecting goals, pourquoi pas. Pour moi, pour le plus important, c'est les points et les buts marqués. Voilà.
J'ai pas l'impression qu'au tableau d'affichage, soit les expected goals qui soient.
Mais en tout cas, il les sort tout le temps. Alors moi, je veux bien qu'il ait des statistiques à sortir sur les expected goals, mais les expected goals, ça n'a jamais fait gagner des matchs. Donc pour moi, aujourd'hui, marquer des buts, c'est plus important que des expected goals.
Effectivement. On va passer au top et au flop de ce match. Alors les tops. Il n'y en a pas. Hein. Alors si, moi j'ai bien aimé la magère de Todibo. Je l'ai trouvé joli. Alors on pourrait le mettre en attaque. Todibo, je trouve qu'il a géré.
Moi j'ai encore un joueur qui m'a plu.
Melvin Barre.
Ah ouais.
Bah ouais.
Franchement j'ai rien.
Bah ouais, mais oui.
Melvin fait son match. Et il fait son match dans un contexte comme ce week-end où
lui. Il y a que lui. Hein. Lui est Guessant.
Il a fait lui. En tout cas, il était là. Ouais, mais... quand Evan Guessant il est rentré, il a fait encore une différence pour moi qui est importante. Et tu veux qu'on parle des flops tout de suite?
On peut commencer. Alors, on va peut-être, tu sais ce qu'on va faire parce qu'on a des exigences aussi de timing, tu le sais.
Ah pardon.
On a des annonceurs qui veulent se faire entendre pendant.
Qui payent cher hein, pour apparaître dans 100%.
Bien sûr, cette émission.
Eh oui, Patrice star Albalot, de la Côte d'Azur. Ça se vend.
Ce matin, j'ai croisé d'ailleurs des supportrices toutes jeunes qui m'ont parlé de toi.
Ah bon?
Ouais, elles m'ont dit j'écoute Patrice lundi soir. Voilà.
Ouais, bah écoute.
Grosse émission qui reprend dans un instant et on parlera justement des flops. Là, on a de quoi dire.
L'univers de Jean-Jacques Goldman, comme si c'était avec lui. Le tribute 100% Goldman, les Goldmen, sont à la Palestre au Canet, vendredi 22 mars, avec France Bleu Azur. Le chanteur Alain Stévez, véritable sosie du chanteur préféré des Français. Retrouvez les tubes de Jean-Jacques Goldman, du live, des musiciens. Les Goldmen, vendredi 22 mars à la Palestre au Canet. Gagnez vos places sur France Bleu Azur.
Je vais t'aimer avec France Bleu. Face à l'immense succès depuis son lancement en 2021, la comédie musicale Phénomène repart pour une troisième tournée dans toute la France. Embarquez à bord du mythique paquebot France et vivez de Paris à New York l'histoire d'une bande d'amis au rythme des plus grands succès de Michel Sardou. Je vais t'aimer en tournée dans toute la France avec France Bleu.
Quand vous écoutez France Bleu, vous n'êtes pas n'importe où. Vous êtes chez vous. France Bleu, au cœur de nos régions, de nos villes, de nos villages. France Bleu Azur, ici, on parle d'ici.
18h30 sur France Bleu Azur, on fait un nouveau point sur vos conditions de circulation, toujours difficiles hein, sur le bord de mer entre Monaco et Menton. Difficile également sur la pénétrante du Paillon en direction la Pointe de Comte. À Nice, c'est la voie Matisse hein, qui vous posera problème. Plus particulièrement pour aller dans le centre-ville, à partir des Bosquets, hein, vous allez rencontrer des difficultés jusqu'à la sortie du tunnel Malraux en direction de Cannes. Ça roule bien et puis une fois arrivé à Cannes, ça ne roule pas bien puisque le boulevard Carnot est totalement bouché dans le sens montant à cette heure-ci, c'est difficile dans le sens descendant. Et puis l'avenue du Campon également dans le sens montant hein, pour rejoindre l'autoroute A8. Là aussi, vous allez rencontrer de longs embouteillages.
100% Aiglon, 100% Aiglon sur France Bleu Azur.
Maxime Baquier, Jean-Michel, notre supporter, et Patrice Alberganti qui fait son grand retour aujourd'hui. 100% Aiglon, le débrief. On était sur les flops et je crois qu'on est tous d'accord, Max. Hein. Le flop de ce match, c'est Jean-Clair ?
Pas forcément. Il y a Terem Moffi qui a été invisible. Il y a encore des joueurs qui nous ont déçus. Mais effectivement, mon flop à moi, c'est Jean-Clair Todibo parce que il est agaçant. Il est un acteur principal de ce match à ses dépens, avec ce but contre son camp, ce sourire qui fait un peu tache, même si on peut le comprendre, le rire jaune dans cette situation, premier coup de pied arrêté, ça finit au fond. Mais c'est surtout sa réaction à la fin du match, d'aller voir les supporters, bravo. Par contre, de réagir comme ça à l'insulte d'un supporter, de s'abaisser à cette provocation et de se mettre finalement au même niveau. Il y a un supporter parmi les ultras qui t'insulte, c'est pas bien, mais tu dois pas te mettre au même niveau que lui et de réagir, de surréagir devant les caméras. Ça fait tâche pour lui, pour le club, pour le GC Nice. C'est un joueur qui est international français, qui veut jouer l'Euro, qui vise a priori le très haut niveau, qui espère sans doute jouer dans un des grands clubs européens. Mais on peut pas dégoupiller comme ça régulièrement sur des erreurs d'arbitrage, sur des provocations sur le terrain avec ce carton rouge reçu au Havre, sur des provocations hors terrain. On se souvient qu'au Puy-en-Velay, il avait déjà failli en venir aux mains avec un supporter derrière un grillage. La rebelote. Et quand on en discute avec lui, il nous dit qu'il n'est pas prêt, lui, à se renier, que pour lui, le respect est une valeur essentielle. Ok, mais à un moment, ça peut être aussi rédhibitoire pour un sélectionneur des Bleus, pour de grands clubs, et puis surtout pénalisant pour son équipe. Si tu et prends un rouge pas... au bout de 10 minutes parce qu'il y a un joueur qui t'a mal parlé.
Se renier, Max, tu dis, parce que le respect, c'est sa valeur première. Est-ce que dans la notion du respect qu'il a, il a pas aussi intégré qu'on peut pas toujours en arriver aux mains, que des fois parler ou tourner les talons et partir sans rien dire, c'est aussi quelque part une forme de respect?
Oui, évidemment, oui, un respect pour ses coéquipiers, pour le blason, les couleurs qu'il défend, pour la ville, pour les autres supporters, parce que là, encore une fois, il va cibler, stigmatiser, finalement, pour ceux qui vont voir cette image-là, voilà, ça y est, c'est la brouille, c'est la fracture entre Todibo et les supporters. Non, c'en est un qui l'insulte. Il faut pas le faire. Mais à la limite, comme lui le disait en zone mixte à la fin du match, réglons ça en famille, hors caméra, c'est en plus un supporter qu'il connaît, qu'il discute de temps en temps à la sortie de l'entraînement, donc, va le voir, discute-en à la tête froide quelques jours après, mais il surréagit souvent, Jean-Claire Todibo, et c'est là où ce garçon semble ne pas tenir compte et tirer des leçons de ses erreurs. Et à 23-24 ans, il est grand temps, je pense, qu'il bascule mentalement dans une attitude de joueur de très haut niveau. Sinon, il restera ce très bon défenseur de Ligue 1, et ce sera un gâchis pour lui et peut-être pour le gym et pour l'équipe de France.
Moi, je trouve que c'est une fragilité, en fait, que tu nous décris là. Il ne sait pas se maîtriser. Je vais me tourner vers Patrice, qui a été joueur, qui a dû en connaître, hein, des embrouilles avec les supporters, avec des joueurs adverses, avec des entraîneurs, avec des arbitres. Est-ce que, quand on n'est pas armé dans sa tête, Patrice, est-ce qu'on peut espérer arriver au plus haut niveau? Parce qu'il n'est pas armé dans sa tête pour réagir comme ça.
De toute façon, le haut niveau ou le très haut niveau va te demander ces exigences-là, très, très clairement. Après, je lui trouve pas je donne pas d'excuses, hein, bien évidemment. Hein, la frustration de son match, elle existe à la fin du match. Il est très frustré, il bute contre son camp, il fait pas un grand match, on perd 2-1. Ça n'explique pas la réaction, hein, mais tu peux te dire, voilà, je suis frustré, je suis pas bien, je suis dans un état d'esprit un petit peu énervé. Il lui manque une étincelle pour dégoupiller et pour faire ce qu'il a fait. Après, Jean-Claire doit être au-dessus de ça. Tu dois être au-dessus de tout ça. C'est-à-dire, ces choses-là, elles font partie de ton métier. C'est-à-dire que les insultes entre joueurs sur le terrain, où on va te prendre la tête tout le match. Moi, j'ai rencontré des défenseurs qui tout le match te parlent. J'ai rencontré des supporters qui t'insultent tout le match. Donc, ça doit passer en second plan quand tu as accepté de faire ce métier-là parce que tu es confronté à une masse populaire énorme. Donc tu peux pas t'attarder sur ces choses-là. Donc mais ça s'apprend. C'est peut-être quelqu'un qui doit lui en parler, qui doit faire des séances avec je dis pas un psychologue, mais quelqu'un qui va lui expliquer que de toute façon tu vas être confronté à ça toute ta carrière. T'en as 23, si t'es pas capable de le maîtriser maintenant, comment tu vas faire à 30 ans? Donc c'est quelque chose qui doit faire partie du métier.
Et ça fait, il y a des coachs d'ailleurs, hein, il y a des coachs mentaux, pour tous les plus grands sportifs d'ailleurs et tous les plus grands champions ont leur coach perso qui leur apprend à avoir certaines attitudes dans certaines circonstances, dans certaines situations. Alors pour une équipe de foot, effectivement, t'as 20-25 gars à coacher. Bon,
Le GC Nice, c'est un psychologue, hein, un psychologue à temps plein. Donc ça peut être un thème à aborder. Mais moi, j'ai une question pour Jean-Michel. Quand tu vois ça, t'es supporter de l'OGC Nice, tu lui en veux à Jean-Claire Todibo de cette réaction? Comment toi, tu tu vis ce moment-là en tant que supporter et après, ses antécédents déjà avec le garçon.
On peut comprendre la frustration, il n'y a pas de souci. Ça fait 2-3 matchs où il rate certaines choses. Je trouve qu'il est moins percutant. Le problème, c'est que ce n'est pas la première fois. Les médias le ressortent en plus. Il y a eu l'histoire avec l'équipe de France. Et le souci qu'il y a, c'est qu'il sait très bien que les supporters niçois, surtout de ce côté, on est sanguins. La frustration, on peut la comprendre. Les insultes, comme l'a dit Patrice, il y en a tout le match. Il y en a sur les adversaires. Tu les subis partout. Et le problème, c'est qu'il ne doit pas réagir comme ça, justement. Alors, il entend. OK. Comme tu l'as dit, toi aussi, c'est que tu peux prendre le temps à froid de prendre rendez-vous avec un tel ou un tel et d'en discuter en dehors. Là, c'est tu surréagis à la réaction des supporters qui sont mécontents de ce qui se passe depuis 6 matchs.
Et ce qui est inquiétant, c'est qu'il nous dit clairement que lui, il n'est pas prêt à aller dans l'autre sens. Donc,
ça, c'est une question d'égo, non ?
Il y a autre chose aussi, c'est qu'il faut qu'il se place aussi en vice-capitaine. Quand il n'y avait pas Dante, il était capitaine. Donc c'est vrai que tout ça fait que il doit prendre aussi le fait de ça et grandir dans sa tête pour évoluer dans un autre championnat. S'il doit évoluer dans des grandes équipes, je pense qu'il va en entendre d'autres. Hein. Parce que quand tu vas aller jouer en Turquie, si tu veux jouer l'Europe,
il parle
c'est
pas le
la
Turc,
même que là.
Tu vas me dire.
Non mais c'est un exemple, c'est un
non,
exemple.
Mais pour dire, enfin voilà, c'est pas la solution en fait.
C'est fou de être au-dessus de ça.
Tu dois être au-dessus, tu dois pas les entendre en fait.
Voilà. C'est
tu dois pas, tu, et à défaut de les entendre, tu dois pas les écouter, tu dois pas réagir. Et si tu sens que tu vas réagir, tu vas au vestiaire et tu vas pas devant les supporters. Tu sais très bien que c'est le sixième match, t'es pas bien.
Et puis en plus, il sait très bien que les médias, ils vont jouer avec ça parce que voilà, la populaire, ils nous en font, dès qu'il y a quelque chose, ils nous en font un truc énormissime. Et là, ils disent encore, oui, c'est encore les supporters qui décident de comment ça se passe à Nice. Voilà, on n'en finit pas avec ça non plus.
C'est un petit peu le travers et c'est vrai que, Ce qui est dommage, c'est que limite on parle plus de cet événement de fin de match qui est un petit événement
ça doit rester anecdotique.
C'est ça, ça devrait rester.
Non, mais ça arrive dans un climat de nervosité important. On parlait des sorties de Lotomba, de Youssouf à Lyon. On sent quand même qu'on est dans un moment de grande nervosité, que la marmite est peut-être pas loin d'exploser sur certains cas individuels. C'est toujours pareil quand ça gagne. Les ressentiments sont bien cachés sous le gazon. Par contre, quand ça commence à perdre, certains vont peut-être se lâcher un peu plus.
Tu peux pas remettre en question la saison qui nous fait aussi.
Non.
Donc voilà, tu vois ça. Il faut il y a eu ce cas-là. Il faut vraiment que ça se ferme aujourd'hui, terminé, qu'on passe à autre chose et que lui montre aussi que ces choses-là, elles doivent plus se reproduire en fait.
Que ça a été anecdotique.
Voilà, ouais, sportivement, on n'a rien à lui reprocher à Todibo. Enfin, il fait ses matchs. Alors, il y a des matchs qui sont un peu mieux que d'autres. Peu importe. C'est un être humain, c'est normal. C'est un joueur de foot. On va pas voilà. Problème, c'est l'extra sportif en fait et qui a de l'impact in fine sur le sportif parce que cet embrouille, là, peut avoir un impact sur l'équipe,
sur l'image, ça peut
avoir des conséquences. C'est pas anecdotique. On va peut-être prendre un autre supporter qui va peut-être pouvoir nous donner son avis. Patrice est avec nous. Salut, Patrice.
Bonsoir.
Bonsoir Patrice. On était sur le cas Todibo.
Il a peut-être un autre flop. Patrice,
oui, tu vois,
match,
effectivement, toi t'as peut-être.
Ah moi c'était vraiment flop Todibo.
Toi c'était qui toi?
Ah moi c'était
Terem.
Terem.
En fait. Ouais.
Ouais. Ah, sur le terrain, oui, c'est vrai qu'on peut s'étonner de l'avoir vu finir ce match.
On est bien d'accord là-dessus.
Alors que Guessant, lui, a démarré sur le banc. Alors peut-être Patrice, lui, en a un autre.
Non, pas tellement second sur le cas Todibo. Bon, je n'ai pas pu me rendre au stade l'autre soir, vu le temps. Mais ce qui n'a pas passé pour moi, c'est se mettre à rire après ce contre son camp. Même les commentateurs TV ont dit, mais qu'est-ce qu'il a? Pourquoi il rigole autant? Ça lui fait plaisir de marquer contre... Voilà, c'est ça.
Ah, attends, là, j'ai Jean-Michel qui est où, là? Il n'est pas d'accord, hein.
Non, en fait, c'est une réaction qu'il a. Voilà, quand rien ne va, tu te retournes, tu dis putain, il m'arrive ça, quoi. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, il est pas là. En fait, c'est plus un rire pour moi, de nerveux, de sentiment, de dire c'est bon, il y a tout qui me tombe dessus, en fait.
Voilà. Oui, mais c'est vrai qu'aussi à l'époque, bon, je suis le gym depuis 71, hein, donc je suis un vieux supporter. Il n'y avait pas les caméras, il n'y avait pas de gens, n'entendait pas. Et là, c'est passé en gros plan plusieurs fois, ils ont repassé la même séquence. Voilà,
c'est les médias, Patrice.
Ça arrive après son sourire qui avait fait tâche, effectivement, avec l'équipe de France. C'est pour ça, il vit une saison où il y a eu encore trop d'épisodes qui entachent un petit peu son image et son talent.
Pour lui, parce que bon, moi, je l'aime beaucoup comme joueur. Hein. Il nous a sauvé plusieurs fois, mais là, bon,
contre son camp,
ça peut arriver à n'importe qui. Hein, un mauvais geste, toucher la jambe, qui a tapé sur le volet, bon, c'est pas de sa faute.
Ah, c'était pas un match pour lui et du début à la fin, ça a été difficile. Merci Patrice d'avoir été avec nous.
De rien. Allez, bonne soirée.
Bonne soirée, Patrice. À bientôt.
Très bientôt, Patrice. À très bientôt. On parlait d'autres flops. Effectivement, le tien, Patin, c'était Rem, hein, qui a encore été transparent.
Transparent, et je trouve qu'il a cristallisé ce manque de fluidité offensive. Il a été brouillant tout le match. Il a raté son jeu de haut but. Les quelques occasions qu'il aurait pu se mettre sous la dent, il se les est éliminé tout seul. Et je trouvais qu'il était vraiment pas au niveau dont on l'attendait, parce que on en a parlé en début de match. Moi, je pense que Farioli a mis cette équipe en place pour montrer à ses cadres qui comptaient sur eux depuis le début de saison et que c'était eux qui allaient redresser la barre sur ce match-là. Et Terem Moffi, il a sombré dans ce match, et malheureusement pour nous, c'est dommage, parce que il a eu 2-3 opportunités où il aurait pu vraiment mieux négocier son ballon.
Ouais, Terem qui fait pas une belle saison, Jean-Michel. Hein.
Ben moi, je pense que c'est pire depuis le retour de la CAN. Moi, je le trouve super lourd, là, depuis qu'il est revenu.
Brouillon, je le trouve, moi.
Très brouillon. Tout ce qu'il tente, c'est raté. Là, il a fait un match, et encore, je me demande pourquoi il n'est pas sorti avant.
C'est un peu la question que j'ai envie de poser à Max.
Parce que là, tu le laisses tout le match.
Le coaching est là-dedans. Qu'est-ce qui se passe?
C'est là où on a l'impression que Farioli, il perd un peu le fil. Il a un attaquant qui performe depuis ce début d'année, qui, comme il le disait lui-même, a un peu porté l'équipe sur son dos en l'absence de Boga, de Moffi. C'est Evan Guessant, meilleur buteur sur l'année 2024, qui à chaque fois qu'il joue, il est bon. Et tu préfères démarrer ce match crucial sans ton meilleur attaquant qui rentre à l'heure de jeu. Moffi, lui, termine le match. Donc quel message aussi t'envoies aux joueurs? Est-ce que aujourd'hui, les statuts restent importants au moment de choisir ton 11, ou alors les performances doivent te permettre aussi de devenir un indiscutable? C'est vrai que c'est pas très logique de revoir un Laborde titulaire, par exemple, sur le côté droit, alors que ces derniers temps, il est pas bon.
C'est ce que dit Patrick. Il voulait que les cadres montrent s'ils étaient capables. Le problème, c'est qu'à la fin, il met les 4. C'est ce que tu as dit tout à l'heure. Les 4, t'es obligé de les laisser. Et avec les 4, on fonctionne pas. Donc j'espère que c'est là où il va décider les choses. Bon, peut-être pas Paris, parce que Paris, c'est autre chose.
Mais on va en parler de Paris, mais pour le championnat, mieux correspondre finalement au profil d'un Moffi, d'un Boga, d'un Shaw, parce que c'est pareil, tu fais venir Mohamed Ali Shaw, qui en interne, on nous dit, c'est la belle surprise, la mentalité, le talent. Et ce garçon, aujourd'hui, il passe derrière Laborde, il passe derrière Moffi, qui sont mauvais. Donc il y a un fil qui a été perdu par le coach, et on le sent vraiment, que ce soit dans le 11, dans ses choix, dans son coaching. Après, c'est la vie d'un coach, hein, c'est des coaching perdants, coaching gagnants, ça se joue parfois à pas grand chose. Là, en ce moment, il est vraiment dans le dur, il a perdu le fluide.
Moi, c'est la progression qui m'interpelle, la progression des joueurs. Offensivement, je te parle. L'animation défensive, elle existe, elle est là, on la connaît, ça fonctionne. Mais la progression des joueurs au niveau offensif, elle n'y est pas.
Progression ou régression? Parce que moi, j'ai presque l'impression que c'est une régression.
Ils sont arrivés à un niveau moyen, je trouve, devant. Parce qu'un gars étant Laborde, moi, franchement, quand je le voyais jouer dans les autres clubs et tout, je me disais, putain, super joueur. Quand il est arrivé à Nice, il a fait des choses intéressantes. Et je trouve qu'il stagne depuis 3-4 mois. Il est sur le même niveau, il progresse plus. Il arrive plus à mettre, ce petit plus qui faisait sa force et sa réussite. Et Terem Moffi, pareil, il est arrivé à un niveau où il progresse plus, il stagne. Et je pense que là, oui, pour moi, c'est une vraie, appartenance aux performances que doit amener un coach par rapport à ses joueurs. Et je trouve que ces attaquants, ils progressent pas. À part notre ami Evan Guessant, qui arrive à être tout le temps là, à faire ses matchs et à performer.
À droite, les autres, dans l'axe, même à gauche où il rentre.
Les autres, ils sont sur le même fil et ils avancent plus, je trouve.
La jeunesse, la niaque, et c'est vrai que, enfin, moi, quand je vois jouer Laborde là depuis quelques matchs, j'ai l'impression de voir un joueur de Ligue 2, hein, sans lui faire offense, hein, vraiment.
Tu lui fais un peu offense là.
Le seul qui pousse, à la porte, c'est le petit Loucher.
Ah, Loucher,
ouais, il tape à la porte.
Ouais, mais c'est pareil, lui, tu le fais jouer à gauche, à droite. Alors, il est performant, content. En tout cas, dans l'état d'esprit.
Oui, mais après, il va falloir y trouver un poste aussi. Hein, parce que sinon.
Et lui trouver son poste, pas un poste, son poste, le poste qui lui va bien. Parce que le bon joueur au bon poste, ça sert à rien de le mettre là pour combler des trous et pas exploiter ce potentiel. Tom Louchet, il a un potentiel qui est juste énorme. Comme Evan Guessant, pareil, ils ont des cartes à jouer. Et ça serait bien peut-être que le coach leur donne un petit peu plus de temps de jeu. On va parler dans un instant du prochain match qui attend nos Aiglons, un match pour lequel Farioli veut faire un coup, hein. Je crois que c'est ça qu'il a dit, hein, Max, en conférence de presse.
Exactement, le même qu'en septembre.
Eh bien écoute, Pat, on va aller voir ce match encore une fois sur la plage, peut-être que ça porte chance.
Et pourquoi pas.
On ne sait jamais. 100% Aiglons, le débrief, ça reprend dans un instant sur France Bleu.
À 19h, toute la semaine, toute l'actu musicale est sur France Bleu. Dans Décibel.
La vie en rose.
Émilie Mazoyer.
Ah oui, vous allez voir La vie en rose, hein, si vous êtes fan d'Édith Piaf. Ce soir, écoutez bien Décibel, je reçois Claire Chazal qui animera demain sur France 2 un nouveau numéro du Grand Échiquier consacré à Édith Piaf, sa vie, son œuvre, des reprises, des invités, des surprises. On en parle ce soir.
Décibel, seulement sur France Bleu, chaque soir dès 19h.
L'événement jazz de mars, le Nice Jazz Orchestra dirigé par Pierre Bertrand revient en big band au théâtre Francis Gag les 23 et 24 mars prochains pour rendre hommage à l'immense trompettiste Dizzy Gillespie, figure mythique du jazz à Nice. Le NGO invite les solistes internationaux Ron DiLauro, Sylvain Gontard et Mini Nogaraï. Réservation sur nicejazzorchestra.fr.
18h47 sur France Bleu Azur. Enfin, un dernier point sur vos conditions de circulation toujours difficiles à Cannes, hein. Boulevard Carnot, également la Croisette, hein, c'est dû au MIPIM, hein, qui n'a pas commencé, mais les premiers participants sont déjà là et bien là. Boulevard Carnot et donc avenue du Campon, difficile, ainsi que la Croisette à Cannes, à Nice maintenant, puisque sur l'autoroute ça roule bien. À Nice, c'est la voie Matisse, hein, qui vous posera problème, principalement en direction du centre-ville. Un gros quart d'heure à rajouter sur votre temps de trajet habituel. Du monde également sur la pénétrante du Paillon, en direction de la Pointe de Comte.
100% Aiglon, 100% Aiglon sur France Bleu Azur.
100% Aiglon, le débrief, toujours avec Maxime Bacquier, Jean-Michel, Patrice Alberganti et Adil qui nous rejoint. Salut Adil.
Oui, bonsoir équipe.
Salut Adil.
Bonsoir.
Adil, bon. On va se projeter plutôt sur le prochain match. Match contre le PSG, Jean-Michel nous disait hors antenne, généralement Nice c'est contre les gros qu'ils performent, t'es d'accord?
Allez, on va rester dans le 100% positif parce que je pense que tout a été dit jusqu'à présent. Ce qui nous fait clairement défaut, c'est l'animation offensive, hein. Je pense que Pat l'a assez bien soulevé. On n'arrive plus à surprendre tactiquement ces équipes. Et là, bah écoutez, moi je pense que sur les deux matchs, entre celui du PSG et celui de Lens, et bah celui sur lequel on a le plus de chance, c'est contre le PSG. Parce que le PSG va affronter une équipe qui est clairement en perte de vitesse à domicile. Je pense, le sursaut d'orgueil, parce que là, je vois pas comment est-ce qu'on peut descendre plus bas. Et ben peut-être qu'on peut espérer tirer un match nul, et peut-être qu'on peut espérer arriver au tir au but, et peut-être que Marcin va encore nous qualifier. Voilà, c'est mon seul espoir. Je veux me raccrocher à ça, parce que sinon, sinon on n'avance plus, et puis sinon on voit que du noir.
On recule même, à défaut de pas avancer.
Il y aura 400 supporters du gym dans ce parquage visiteur, donc les Aiglons ne seront pas seuls, au moins au parc, mercredi soir, pour refaire ce coup, ouais, effectivement, du 15 septembre, quand cet OGC Nice était une promesse. Il y avait pas mal d'interrogations autour de ce plan de jeu, et il y avait eu cette étincelle, cette magie au parc, 3 buts marqués, un Terem Moffi en feu à l'époque, Patrice. Alors est-ce que le gym est capable de reproduire la même performance 6 mois plus tard?
Mais le football, ça va très très vite, on le sait, hein. Il peut tout arriver sur un match de foot. Donc bien évidemment que le degré de concentration contre le Paris Saint-Germain, j'ai pas de doute, hein, sur ça. Donc on va être concentré du début jusqu'à la fin, sans aucun problème, et on va être capable d'élever le niveau de jeu sans aucun problème. Contre les gros en général, on l'avait dit déjà, on en a parlé cette saison, hein. Rappelle-toi les 3 matchs que nous avons fait coup sur coup sur des équipes de haut de tableau. On a gagné les 3, donc j'ai pas trop de problèmes avec ce genre de match. Après, bien évidemment que ça peut être un match qui peut nous relancer, mais ça peut être un match où il peut se passer beaucoup de choses à l'inverse. Donc,
c'est un peu la question. Tout à gagner, tout à perdre. Si tu fais éliminer la coupe, vu comment ça se passe en championnat, tu peux aussi tout perdre cette semaine et finir.
J'ai pas d'inquiétude sur le niveau qu'on va afficher contre le Paris Saint-Germain. Maintenant, c'est à nous à faire ce qu'il faut pour justement essayer de nous rendre cette Coupe de France attrayante et magnifique.
Est-ce que c'est pas l'occasion aussi pour Farioli de justement mettre un petit peu un coup de pied dans la fourmilière et dire OK, on va changer, on va essayer peut-être un nouveau système, peut-être mettre un nouveau trio d'attaquants devant, un peu plus inédit. Non. Est-ce que c'est pas le moment ? Au bout d'un moment, il faut réagir. C'est-à-dire, tu peux pas rester à te dire, on voit que ça marche pas, puis on continue parce qu'un jour ça va marcher.
Tu crois que c'est le bon match ?
Bah, je crois justement que, enfin, vu qu'on a tout à gagner, tout à perdre, in fine, on a rien à perdre, on peut faire en all-in.
Tu parles comme des Zofi maintenant, in fine. Non, mais c'est pas le bon match parce que justement le PSG, c'est typiquement le scénario de match qui peut enfin correspondre au profil que t'as, parce que on peut s'interroger sur la manière finalement dont a été constitué cet effectif et voire même le mercato d'hiver par rapport aux idées de Farioli. Tu prends des joueurs qui ont besoin d'espace pour s'exprimer, comme Boga, comme Mohamed Ali Chou cet hiver, dans un système de jeu où tu veux jouer le plus haut possible et avec le maximum de possession. Comment ils font pour prendre de la vitesse, prendre de l'élan? Donc, si on peut retrouver justement ce scénario comme à l'aller en Ligue 1 au Parc où Paris va forcément avoir le ballon et profiter de ces espaces-là pour Mofi justement, pour Shaw, pour Boga, voire Thuram, parce que Thuram c'est la même chose, il a besoin d'avoir le jeu face à lui et de prendre ce ballon. Donc je pense pas que ce soit le moment de tout changer. Justement, ça peut permettre à certains de se relancer et il y aura ce degré de concentration, d'exigence supplémentaire par rapport à l'affiche, par rapport à l'adversaire, par rapport à la compétition, qui peut te permettre d'aller réaliser l'exploit. Parce que, oui, le gym a été plutôt performant contre les grands cette saison, même si depuis quelques semaines, il y a eu des fêtes à Rennes, il y a eu des fêtes contre Monaco, des fêtes à Lyon, donc c'est un peu moins vrai en 2024, mais de toute façon, on perd contre tout le monde.
Oui, c'est pas totalement faux. Hein. Je rappelle, 5 points marqués depuis le début de l'année, sur 24 possibles. Hein. Enfin, c'est des statistiques.
Ouais, mais ce que disait Maxime est vrai, c'est que là, on va pouvoir jouer en transition et en percussion devant. Ce qu'on a fait au mois de... C'était quand ?
Septembre. C'était il y a 6 mois, tout pile.
Voilà. Après, je pense que non, on a plus à perdre qu'à gagner. On a plus à perdre qu'à gagner. Après, c'est la façon dont on va jouer, dont on va gagner ou perdre. Il y a ça aussi. Parce qu'en fait, c'est eux qui ont à perdre, le PSG. Eux, il faut qu'ils gagnent tout.
Ouais, ça peut jouer sur
la prochaine favorite.
Leur entraîneur.
On l'a pas. Oui, il a fait.
Il a dit qu'il voulait gagner la Coupe de France. Il veut avoir les quatre trophées majeurs.
Hier, il a fait tourner. Hein, Mbappé sur le banc, Donnarumma sur le banc. Au milieu, ça a fait tourner aussi. Donc, effectivement, on aura l'équipe type du Paris Saint-Germain en face. Donc, ça sera un vrai gros test, comme l'a reconnu Farioli, qui veut malgré tout faire un coup. Et Bulka, qui était aussi face à nos micros tout à l'heure en conf de presse, c'est pareil. Il nous a dit nous, on y va pour se qualifier.
Et là, il n'y a pas besoin de motivation plus que ça.
Elle est là.
Sans oublier que la finale est à Lille.
Nos amis lillois.
Voilà.
Hein, Jean-Michel, on y va
si
tous.
Si vous pouvez y penser pour nous, ça peut être sympa. Voilà.
On salue les DVE, les amis des supporters du gym.
Et pour revenir à ce match contre le PSG, oui, match charnière pour le moral. Après, pour la suite de la saison, j'ai envie de te dire qu'on gagne la Coupe de France ou pas.
Ah bah ça change quand même.
Si on n'est pas
depuis le temps qu'on n'a pas vu de trophée, ça serait pas mal. Hein.
Ça serait bien. Mais moi je trouve que si tu gagnes la Coupe de France et qu'en championnat tu finis hors des places européennes, 8e, 9e, saison elle est pas belle. Hein.
Bon, attention, tu joues contre le Paris Saint-Germain, tu viens de perdre contre Montpellier, t'as pas été bon contre Toulouse, Clermont, t'as pas été bon contre Clermont. Je veux dire, tu bats le Paris Saint-Germain, ça peut te remettre un coup de boost dans le moral énorme. Donc faut pas le prendre à la. Enfin, il faut surtout se dire que c'est quelque chose qui peut te remettre les idées en place, vraiment.
Ça peut, et il faut espérer que ce soit ça qui se passe, parce que
moi je suis toujours optimiste.
Moi aussi, je pense que là, c'est ce match.
Tous les matchs, on va les gagner, moi.
Entre finir à 5e et gagner la Coupe de France, il n'y a pas photo. On l'a vu, l'épopée, l'élan, l'enthousiasme que ça avait créé il y a 2 ans, avec déjà une qualif au Parc.
Mais aujourd'hui, tu dis ça. Quand on était second, tu m'as posé la question. Je t'ai dit, moi, je préfère finir.
Mais aujourd'hui, la seconde place, Brest, ils sont partis. Il y a des équipes comme Lille, comme Monaco, qui ça y est. Les équipes qui finissent haut, c'est les équipes qui finissent bien. Donc, à part si tu fais comme Monaco il y a 2 ans et que tu finis sur 9 victoires, je vois pas le podium aujourd'hui accessible. Et c'est vrai qu'on. Moi, le premier, je me suis trompé. Je pensais que cette équipe avait suffisamment de repères dans ce cadre-là pour ne pas complètement dégringoler comme ça.
Il y a encore 15 jours, 3 semaines, on parlait du podium. Hein.
Il y a 15 jours, 3 semaines, qui voyait Marseille revenir comme ça, qui voyait Lens qui était à 12 points. Donc, en 5 matchs, tu peux revenir au même niveau que t'étais si voilà. On parle de ça, mais ça regarde, t'as Lens samedi. Si tu gagnes mercredi, que tu balances. Non mais on parle, on est optimiste.
Bien sûr.
Si tu les gagnes, tu repars de l'avant.
On a dit avant Montpellier, voilà. C'est le match qu'il faut gagner pour se relancer. On l'a perdu. Donc
oui, ça, peut-être.
On peut le dire jusqu'à la fin de la saison. Hein, mais, c'est le match.
Hein. Non, mais il y a pas. C'est le match. Il faut rester optimiste. On est quand même sixième aujourd'hui.
Oui, à 3 points de la 4e place.
Voilà, c'est ça.
Ouais, c'est ça.
Ouais, ouais. C'est...
Et toujours en lice en Coupe de France.
2 points même de lice
jusqu'à mercredi.
2 points, tu vois.
Ah non, mais c'est après c'est aussi l'effet d'avoir été seconde, d'être resté sur le podium ultra longtemps.
La déception, elle est là.
La déception, mais bien sûr.
Mais on est entièrement d'accord. La saison n'est pas finie.
La saison n'est pas finie, mais c'est vrai que une fois que t'as goûté à ce podium où t'es resté quand même combien de journées max on est resté sur ce podium.
Voilà, tu me colles, mais
plusieurs dizaines, enfin voilà.
Une quinzaine de journées, je crois.
Voilà, tu prends l'habitude, ça devient ta place.
T'as même été leader.
C'est un peu ta maison.
Sans oublier qu'il y en a qui sont sur le podium actuellement, qui l'ont jamais été aussi, donc qui te dit qu'ils vont pas redescendre aussi.
Non, mais après c'est à nous de faire les résultats.
Et il faut gagner ces matchs
avec eux. Si tu fais pas de résultats,
mais c'est vrai que la déception. Tu as employé le mot déception.
Elle est là.
Je crois que c'est ça en fait.
Elle existe.
Ce qu'on vit tous, c'est peut-être que les joueurs aussi ont cette même déception.
La déception qu'on a nous, c'est qu'on a été capable de battre les gros à l'extérieur et que tu finis par pas gagner. Pour moi, clairement, c'est une défaite. Pour moi, c'est une défaite. Montpellier. Toulouse, alors que t'es bien, tu te tues en 3 minutes seul.
Ah mais Toulouse, ils avaient déjà fait le coup en Coupe de France.
C'est la déception. C'est la déception de te dire que voilà.
Et il faudra sans doute faire sans Youssouf, hein, même si le coach a laissé planer le doute sur sa présence. Alors Rosier et Diop, on le savait, mais Youssouf qui s'est blessé à la cuisse juste avant le match contre Montpellier, il avait été préservé en espérant le voir au parc. Bon, il y aura un dernier test effectué demain. Il nous a dit le coach, l'idée, c'est de le voir jouer au moins un match cette semaine sur les deux. Donc est-ce que on va sous infiltration le faire jouer au parc, quitte à le mettre au frigo contre Lens. En tout cas, voilà. Youssouf, c'est compromis et c'est dommage parce que c'est un joueur clé dans ce genre de rencontre.
Il veut pas s'arrêter. Hein. Non. Ça fait 20 secondes que je lui dis stop, arrête, on n'a plus le temps.
Et je te donne enfin une bonne info.
Bien évidemment. Mais tu ne fais que ça, nous donner des bonnes infos. Toute l'année, tu nous donnes des bonnes infos, Max. Et tu seras en direct en plus du Parc des Princes ce mercredi. Je serai
on sera là.
Avec toi, prise d'antenne dès
20h30.
21h, le match en direct. Et puis le débrief jeudi avec. Patou qui sera
je
de retour.
Serai là.
Oh là 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 là. Quel plaisir de vous retrouver. Bon messieurs, merci d'avoir été avec nous, Jean-Michel, Max, Patou.
Merci à vous.
Bonne soirée à tous.
Ciao.
Ciao.